Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Culture Queer, animé de nouveau par moi, Jérôme. Aujourd'hui, je suis particulièrement content d'accueillir Andromaque P4. Tatoueuse, perceuse, scénariste, metteuse en scène, autrice, comédienne, elle nous présente aujourd'hui son spectacle Moche comme un pou. Bonjour Andromaque P4.
Salut Queer as you.
Alors, j'ai l'habitude de laisser en fait une sorte de carte blanche, tu vas pouvoir te présenter, mais j'ai quand même une petite question qui m'a titillé quand je suis allé voir ton spectacle, en fait quand je t'ai connu. Il te vient d'où ce nom d'Andromaque P4?
Alors Andromaque, pour la petite histoire, je l'ai choisi quand j'avais 16 ans, quand j'ai lu la pièce de Racine. Voilà, tout simplement, j'étais fan de cette pièce, de ce classique, j'ai trouvé qu'il y avait une belle histoire. Et je me suis tout de suite identifiée au personnage, d'Andromaque évidemment. Et puis P4, c'est arrivé plus tard. P4, c'est parce qu'en fait, on me disait tout le temps, mais t'es complètement folle, parce que je me faisais beaucoup de piercings, tatouages avant que ce soit la mode, scarification, etc. Et on me disait, mais t'es folle. Et du coup, j'ai fini par signer Andromaque P4. Voilà, réformer P4.
Ok, et dire que c'était mon rêve, moi, quand j'ai fait l'armée. Moi, j'ai eu la chance donc d'aller voir ton spectacle. Hein, et il passe actuellement les dimanches et lundis. Et c'est bien sûr à la Divine Comédie dans le 9e. Et ce que j'aime, c'est que c'est non seulement autobiographique, mais tu as tenu à en faire un spectacle joyeux et positif. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi?
Je pense que dans la vie... Il faut toujours essayer de trouver le positif. En tout cas, moi, c'est mon état d'esprit. Et je n'avais pas envie de faire quelque chose de pathos. Je pense qu'il y a assez de misère dans le monde aujourd'hui. Et j'avais envie que les gens repartent avec une idée positive de la communauté LGBT. Et surtout, qu'ils se rendent compte un petit peu que pour passer un message, on n'était pas obligé d'être dans la violence ou dans la tristesse ou dans ce genre de sentiments un petit peu difficiles. Je voulais que ça soit vraiment un spectacle agréable et que les gens ressortent avec de l'espoir et pas avec de la tristesse.
Ouais, en fait, tu voulais pas qu'on y retrouve de la réaction et de la colère, c'est ça?
Je voulais pas qu'il y ait du tout ce genre de sentiments.
Ok, et donc c'était ta volonté de faire un petit peu dans ton spectacle ce cheminement de l'enfant à la femme lesbienne épanouie d'aujourd'hui que tu es. Donc c'est une épopée positive, donc on aura bien compris. Moi ce que j'aime, c'est que en fait le déclencheur dans le spectacle, c'est ce petit pou qui lui ne choisit pas le genre de la tête qu'il va coloniser en fait, c'est-à-dire que l'enfant il prend ce qui vient hein, donc et c'est ça qui déclenche le spectacle, donc on a bien compris que c'était du vécu. Tout est vrai dans ton spectacle?
Oui, absolument, tout est vrai.
Alors ça c'est fort, parce que pour arriver à tout positiver comme tu le fais, moi je te dis bravo. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu t'attaques à beaucoup de stéréotypes avec humour, et en fait c'est un petit peu comme pour nous prévenir que parfois ça nous enferme. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai compris moi-même?
Je crois que tu as tout compris en fait au spectacle, parce qu'en fait le spectacle c'est vraiment un étalage de tous les préjugés qu'on peut avoir, mais en les disant de manière... très banal, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on a tous des préjugés qui rentrent dans la fatalité. Et en fait, moi, j'ai eu envie de les mettre tous ensemble, de les accoler les uns aux autres, suivant les différentes situations et l'évolution de l'âge, de la situation socio-professionnelle qu'on peut avoir au cours d'une vie. Et de montrer en fait que, en réalité, tout ce que je dis, vous l'avez déjà entendu, vous trouvez peut-être ça normal, des fois ça vous fait rire, mais quand on en vient à parler de vous, c'est beaucoup moins drôle.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a intérêt d'avoir un petit peu de recul, en fait. Il faut savoir rire de soi quand on va te voir en spectacle. Et c'est ce qui fait du bien. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait grand bien, je voulais te le dire. Tu me disais aussi, en sortant de ta représentation, parce que je suis allé te voir il y a 10 jours maximum, c'est ça?
Oui, à peu près, ouais.
Ouais, j'y suis allé un dimanche. Ça passe à 16h30 le dimanche, si vous voulez y aller le dimanche. Tu me disais qu'en fait ton public il est assez hétéroclite et tu as notamment des hétéros qui viennent te voir en spectacle. C'est quoi généralement les réactions quand tu récoltes un petit peu les avis, les ressentis, parce que tu restes là pour serrer les mains, donc tu le vois direct?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai pris le parti pris, en fait, d'arriver au début du spectacle par le public et de ressortir en saluant le public, parce que j'aime bien avoir ce contact avec les gens, de prendre un peu la température de ce qu'ils ressentent. Une poignée de main, ça ne manque pas. Un regard, ça ne manque pas. Les gens, un petit peu, sont cachés quand ils viennent au théâtre. On ne les voit pas, nous. On voit les premiers rangs, mais pas ceux du fond. Et quand on leur dit au revoir, on ressent tout de suite ce qu'ils peuvent avoir ressenti. Et c'est vrai qu'on a un public majoritairement hétéro, vraiment à 95%. Et c'est vrai que ces personnes ressortent en général avec le sourire en me disant merci. Merci beaucoup de nous donner une autre image du milieu LGBT qu'on voit à la télé. Merci de ne pas nous prendre en otage. C'est vraiment véridique hein, ce que je dis. Hein. C'est des gens qui me l'ont dit. Parce que les gens, je pense qu'ils en ont un petit peu marre d'être surchargés. Ça, je pense que c'est les médias hein, qui le font. Hein. Ça n'a rien à voir avec le milieu LGBT. Je pense qu'on est des victimes en fait de cette médiatisation, de cette surmédiatisation dont les gens en ont marre en fait, que ce soit en politique ou sur plein de sujets. Les gens en ont vraiment un petit peu marre d'être toujours dans le pathos, dans le triste, dans le dur. Et en fait, quand les gens arrivent dans un spectacle, même s'ils n'ont pas tous compris le résumé et qu'ils se retrouvent, ils me disent ah, « je ne m'attendais pas à ça, mais merci ». Merci beaucoup parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens très différents. Voilà, et c'est ça en fait le message du spectacle.
Mais c'est clair, pour moi, en tout cas moi je l'ai trouvé extrêmement essentiel ton spectacle. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez essentiel, alors tu vas être d'accord ou pas, mais je trouve qu'en plus, les lesbiennes sont sous-représentées. Enfin, c'est un avis perso, je trouve que dès qu'il y a une pièce de théâtre faite par des lesbiennes, on en entend à peine parler. Par contre... c'est vrai qu'en ce moment, dès que t'as un show drag, dès que t'as Paloma qui rentre dans la pièce d'un tel ou d'un tel, boum, ça fait les médias. Et je suis particulièrement content de te filer la parole aujourd'hui, parce que justement, ça permet un petit peu de jouer le rééquilibre. J'espère en tout cas que t'apprécies.
Eh bien, je te remercie beaucoup, effectivement, de nous donner la parole pour ce spectacle. Après, je vais juste apporter une petite précision. Je tiens à dire qu'il n'y a pas que les lesbiennes qui sont mises de côté par les médias. Il y a aussi plein de garçons gays. Moi, je vais être claire, hein, on a discuté un petit peu, tu sais que je n'ai pas de langue de bois. Tous les spectacles qui ne sont pas radicaux, qui ne sont pas très, très politisés, n'ont aucune couverture médiatique dans le milieu homosexuel. Moi, j'ai deux ou trois amis qui ont fait des spectacles. On leur a répondu, c'est trop universel, c'est pas assez choc, ça n'intéressera personne. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est des spectacles qui sont, excusez-moi du terme, mais un petit peu plus intelligents, où il y a des investissements réels de personnes qui travaillent pour produire, pour autoproduire leur spectacle, parce qu'on sait que bah, le public, c'est un public un petit peu plus intellectuel. C'est pas niche, hein. Il y a plein de gens qui vont voir ces spectacles-là, que ce soit sur la GPA, que ce soit sur les ruptures de couple entre hommes, hein, qui ont eu des histoires longues, par exemple. Ça, bizarrement, ça n'intéresse pas Têtu, ça n'intéresse pas les grands magazines. Et j'ai pas honte de le dire, hein, on peut m'appeler, il n'y a aucun problème, hein, je tiendrai face à face ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et quant à nous, les lesbiennes, bah, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que tant que c'est pas subversif, et bah, en fait, ça n'intéresse pas les médias.
Bah, en fait, ce que tu es en train de nous rappeler, c'est que l'universalité, ça a aussi cette vertu, c'est de nous rassembler.
Oui, ça nous rassemble, mais tout ce qui n'est pas choc aujourd'hui n'est pas médiatisé. Moi, je suis désolée, je trouve que les gens, quand ils vont voir des drag queens, j'ai pas honte de le dire, hein, vraiment, et ça me fait de la peine parce que j'ai des amis qui sont drag queens depuis les années 90, comme Missou, par exemple, avec qui j'ai une amitié depuis plus de 30 ans, ou Let Me Be a Drag Queen, que j'ai introduit dans mon spectacle comme vraiment hymne des années 90 des LGBT. En fait, les gens vont souvent voir, quand ils vont voir des spectacles homo, des spectacles queer, ils vont voir des bêtes de foire. Et moi, je trouve que ces artistes n'en sont pas. Et je trouve ça vraiment dommage que dans les médias, on soit présenté comme ça.
Ça a le mérite d'être clair. Alors, je vais aussi aborder autre chose, c'est que tu joues sur scène avec ta femme. Donc, on y apprend que vous avez un enfant, que toi, de ton côté, t'as dû adopter. Et donc, vous nous faites comprendre que vous avez un peu la même vie que tout le monde, hein, que ça peut être parfois stressant et chiant, tout pareil, que parfois c'est vertigineux aussi, c'est la vie en fait. Et ça, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est une vraie vertu. C'est en fait qu'on peut tous se rassembler sur quelques points communs et qu'on n'est pas si différents.
on n'est pas du tout différent. Je pense que l'acte principal pour lequel on se bat tous ici autour de cette table, c'est la liberté d'avoir le choix. Et je pense qu'en fait, c'est dommage qu'il y ait des gens qui se séparent, qui sont pas d'accord avec ça. Parce que le fait, par exemple, que nous, on présente une vie classique, j'ai pas envie de dire normal parce que chacun a sa normalité. C'est un mot qui n'est pas du tout bien utilisé dans cet espace de discussion. C'est important de montrer que c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on doit être différent, et c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on doit être comme tout le monde. Et le parcours, c'était vraiment très important pour moi de faire ce spectacle avec ma femme, parce qu'en fait, elle n'a pas du tout eu le même parcours que moi dans la vie. C'est une femme qui est féminine, elle n'a jamais souffert d'homophobie, les gens ne le voient pas sur elle, c'est pas écrit sur son front, elle n'est pas tatouée, enfin là elle est un petit peu, mais à l'époque elle l'était pas, elle avait un enfant, et moi quand je me suis mis avec elle, j'ai découvert un autre monde, c'est-à-dire un monde en fait où elle m'a toujours dit, moi pour moi je suis normale, et en fait en parlant aux gens normalement, et bien en fait, ils acceptent plus facilement la normalité que toi, avec ton look, qui les agresse. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça, et je me suis rendu compte maintenant, depuis un certain nombre d'années que j'ai une vie classique, rangée, etc., et bien en fait, que ça ne posait plus aucun problème que j'ai ce physique-là, que j'ai cette dégaine-là, et que je fasse le métier que je fais. Alors que quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai vraiment subi l'homophobie, physiquement, psychologiquement, violemment, j'ai vraiment été agressée physiquement. Ça a été très très dur, comme la majorité des personnes qui assument juste qui elles sont. Moi, je n'ai jamais voulu attirer l'attention de par mon look, mais j'étais comme ça. Et je comprends tout à fait les gens qui sont différents aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important aussi de dire que des fois, la vie, elle tient à pas grand-chose, elle tient à une rencontre pour passer de l'autre côté. Et je pense que la plus grande importance dans ce spectacle, c'est de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule direction, qu'il n'y a pas qu'une seule lumière, et qu'il faut savoir s'ouvrir aussi pour pouvoir essayer d'être heureux tout simplement.
Ben, c'est là qu'en fait, moi j'ai vu la performance, c'est-à-dire qu'on comprend bien que tu as traversé tout ça, même si tu y mets de l'humour, même si tu nous fais énormément rire pendant ton spectacle, on sent bien que c'est sous-tendu aussi par des choses qui ont été très dures, et d'où l'importance d'aller te voir, parce que c'est une vraie performance pour arriver à rendre ça léger, à avoir envie d'en rire et de rire de soi-même. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que tu es une des premières personnes à m'avoir révélé sur scène que tu avais eu une angine de poitrine féministe.
Oui, oui, oui. En fait, quand j'ai fait partie des Femmes, en fait, quand on se battait pour le mariage pour tous, en fait, je me rappelle très, très bien le moment précis où j'ai attrapé ça. C'était en fait quand on était à Bastille et qu'on était à poil, il faisait 3 degrés. Et là, je me suis dit, j'ai senti le froid me traverser. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai passé une semaine au lit toute seule. Parce que c'est ça aussi la vie d'activiste, hein. On est souvent seul. Et c'est bien d'être activiste derrière un ordinateur, mais c'est bien aussi d'être activiste dans la vie et dans la réalité. Ça, des fois, ça remet les choses en place. Et en fait, quand tu rentres chez toi, t'es toute seule, quoi. T'es malade, il faut que tu descendes toute seule à la pharmacie, que t'appelles le docteur, et voilà. Mais c'était très très dur, mais je regrette pas du tout cette petite pneumonie que je me suis tapée, parce qu'à la fin, on a quand même réussi à avoir le mariage pour tous, et c'est important.
Et ouais, c'est ce que tu délivres aussi dans ton spectacle. T'es aussi écrivaine. Tu m'as appris que tu avais à ton actif, je crois, c'est 2 livres que tu as écrits jusqu'à maintenant, ou... Tu peux nous en parler un petit peu, parce que moi je trouve ça super intéressant, ça m'a vraiment titillé quand tu m'en as parlé.
Alors moi j'ai pas la prétention d'être écrivaine, hein. Quand on écrit 2 livres on n'est pas écrivaine, hein, ou écrivain. Moi je suis auteur, je suis artiste, donc je me balade un petit peu sur différents médias. J'ai fait aussi des courts-métrages, j'ai été projeté au festival Chéri Chéri. Donc ça c'était super, c'était sur le déni de viol. Donc je traite vraiment beaucoup de sujets très différents dans mes œuvres, que ce soit dans le tatouage, que je pratique toujours, ou sur scène, ou dans des livres, etc. Les livres que j'ai écrits sont très différents. Il y a un pavé de 400 pages que j'ai écrit il y a quelques années, toujours autobiographique, hein, c'est ce qu'on appelle une autofiction, sur une histoire d'amour qui finit pas très bien et qui permet à une fille de devenir complètement... autre chose, de s'épanouir, toujours ce côté positif de quelque chose de difficile, on en fait quelque chose de positif. Et puis après, j'ai fait un second essai qui est beaucoup plus petit. Ça, c'était sur mon expérience au Femmes, justement. C'était sur une expérience d'un an, je m'étais donné un an, je suis restée un an. Après, je suis partie et j'ai un petit peu partagé mon expérience au jour le jour. à l'intérieur de ce mouvement.
Mais alors, quels en sont les titres, s'il te plaît ?
Alors, le premier, c'est Nuit intégrale, le roman. Et le deuxième, c'est Dans le secret de Fémen.
Eh bien, moi, je te promets que je vais aller essayer d'aller trouver Nuit intégrale. Je te le promets. Alors, on va revenir à ton spectacle. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'espère que vous allez avoir très envie de vous rendre à la Divine Comédie dans le 9e pour voir Moche comme un pou. Ça passe les dimanches à 16h30 et le lundi, tu m'as dit quelle heure le lundi
parce que...
19h30 le lundi. Et c'est jusqu'à quand ?
C'est jusqu'au 22 juin.
Oui, ça nous laisse le temps, mais enfin dépêchez-vous quand même. Tu as d'autres projets là à l'avenir ?
Là pour l'instant, non, j'aimerais bien faire tourner ce spectacle dans les écoles.
Ouais, ce serait une bonne chose, effectivement. Je trouve que on a besoin de ce genre de spectacle, surtout que je pense que vous pouvez y aller avec vos enfants sans problème. Il y a rien qui vous, en tant que parent, vous fera dire oula là là là, je vais lui boucher les oreilles. T'as des réseaux sociaux où on peut te suivre, j'imagine.
Oui, il y a la page Moche comme un pou sur Instagram et puis ma page Andromaque P4, écrit de deux manières pour le tatouage et ma page comédienne.
Bon, moi je te fais une confession avant de terminer ce podcast, j'ai toujours rêvé de me faire tatouer, j'ai jamais osé. Peut-être qu'un jour je viendrai te voir.
Avec plaisir.
Oui, j'imagine. Ce nouvel épisode de Culture Queer touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous n'hésiterez pas à le partager. Allez voir Andromaque P4 jouer et revenez nous écouter au plus vite sur la radio Queerazio.